nuit de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Entre Valogne et Cherbourg, vivait ce que l'on pourrait nommer un gentleman farmer, célibataire, un hobereau exploitant ses terres, et n'étant sorti de l'anonymat, il vivait au XVIe siècle, que grâce au journal qu'il tenait soigneusement et qui relatait 5000 journées et quelques nuits. Gilles de Gouberville, un inconnu de l'histoire qui, le 15 janvier 1982, revivait sur France Culture.
Disconosciuti nella storia.
La storia dos desconocidos.
Unbekannte der Geschichte.
L'omano,
the unknowns of history.
Les inconnus de l'histoire.
Gilles de Gouberville. Enquête sur un gentilhomme campagnard du Cotentin sous le règne d'Henri II. Gilles Picot, sire de Gouberville et du Ménil-Auval, par Jean Montalbetti. Médiateur Pierre Chaunu, expert Emmanuel Leroy-Ladurie et Madeleine Foisil. Lecture Yves-Marie, réalisation Albert Morin. Madeleine Foisil, nous entrons dans la cour du manoir du Ménil-Auval, où habitait donc Gilles de Gouberville. Mmh. Évidemment, ce manoir n'est plus dans l'état où il était au XVIe siècle, à l'époque qui nous intéresse. Tout de même, il y en a quelques vestiges. Qu'est-ce qu'il en reste ?
Une tour qui est vraisemblablement du XVe siècle et qui explique certainement que le manoir ait eu un grand prestige à l'époque où le possédait Gilles de Gouberville. C'est vraiment le point le plus important parce que tout autour, nous avons des bâtiments d'exploitation, dont un petit bâtiment que vous voyez là-bas, pas très loin, tout petit, est tout à fait représentatif par la couverture, parce que c'est une couverture en pierre de Tour-la-Ville. C'est une pierre bleutée, très belle d'ailleurs, quand elle est posée de manière récente sur le toit, elle a la couleur de la mer. Et à l'époque de Gilles de Gouberville, on ne couvrait pas en ardoise, c'était beaucoup trop lointain, on couvrait dans ce schiste dit pierre de Tour-la-Ville. À l'époque de Gilles de Gouberville, c'est donc un témoin tout de même significatif.
1521, naissance de Gilles Picot, aîné de 7 enfants dans la paroisse du Ménil-Auval, près de Valogne. Excommunication de Luther, mise au ban de l'Empire par la diète de Worms. 1544, à la mort de son père, Guillaume Picot, Gilles hérite de la propriété du Ménil-Auval, fief de Aubert à Manoir, chapelle, domaine de terre de 52 hectares. Affranchissement des serres du domaine royal par François Ier. 1549, Gilles de Gouberville, 28 ans, tient un journal quotidien sous le titre « Mises et recettes » dont on a conservé 3 cahiers jusqu'à sa 41e année en 1561. 1551, Henri II reprend les guerres d'Italie contre le pape Jules III. 1556, voyage à Blois de Gilles de Gouberville et séjour à la cour royale pendant un mois. 1558, François de Guise prend Calais. 1559, traité de Cateau-Cambrésis et mort d'Henri II. 1562, première guerre de religion. Révolte des protestants, siège de Rouen, massacre de Vassy, émeute à Valognes. 1578, mort de Gilles Picot, sire de Gouberville, au manoir du Ménil-Auval, à l'âge de 57 ans. Pierre Chaunu, historien de l'âge classique, de la Renaissance, à quel moment est-ce que vous êtes entré en contact avec le journal de Gilles de Gouberville ?
Oh, je suis entré en contact avec le journal de Gilles de Gouberville quand je suis venu m'installer à la faculté des lettres de Caen, il y a de cela une vingtaine d'années. J'ai fait travailler des étudiants sur la démographie normande, et il est bien évident que, à l'arrière-plan des campagnes normandes, on a cet extraordinaire livre de raisons que 150 spécialistes du XVIe siècle connaissaient, puisque c'est très vraisemblablement le plus beau et le plus parfait des livres de raisons qui soient parvenus jusque nous. Par conséquent, j'avais, comme tout le monde, enfin feuilleté, regardé le journal de Gouberville, ou plus exactement, regarder dans les deux éditions dont on disposait, l'édition arrangée de l'abbé Tolmer, qui est l'inventeur du journal de Gouberville, puisque c'est cet ecclésiastique érudit du début du Second Empire, qui a découvert dans un grenier ce qui reste de cet extraordinaire document, qui a attiré l'attention dessus et qui en a fait une première transcription. L'abbé Tolmer a fait une lecture qui est une rencontre avec cet étonnant document du XVIe siècle, lui qui était finalement un homme enraciné dans les campagnes normandes du XIXe. Or finalement, entre la vie dans les campagnes à la fin du... dans la deuxième moitié du XVIe siècle, et la vie dans les campagnes, n'oubliez pas par exemple qu'au moment où l'abbé Tolmer écrit, on est en train de construire le chemin de fer entre Caen et Cherbourg. Et par conséquent, on peut bien dire que dans une certaine mesure, les grandes mutations sont postérieures. Donc il y a une sorte de compréhension, il y a une sorte de plein pied. L'abbé Tolmer était totalement de plein pied dans le monde du sire de Gouberville. Si bien que l'étude que l'abbé Tolmer a pu faire, la reconstitution qu'il a fait de la vie de ce Aubreau, qui est un Aubreau exploitant, qui est un petit officier, tout petit officier, mais qui est essentiellement, on dirait en Angleterre, un gentleman farmer. Il y avait un contact, il y avait une immédiateté que nous n'avons plus maintenant, ou si vous voulez, que je peux peut-être, que mademoiselle Voisil et moi, nous pouvons peut-être retrouver, parce que nous avons enfin des mémoires paysannes qui ne sont pas encore tellement éloignées. Mademoiselle Voisil, normande, pas moi.
Madeleine Voisil, si vous n'aviez pas été normande, est-ce que vous seriez intéressée à la vie de Gilles de Gouberville et à ce journal?
J'aurais regretté de ne pas pouvoir m'y intéresser, c'est ce que je dirais, parce que oui, je crois que c'était très important, si vous voulez, quand on étudie un texte, quel qu'il soit d'ailleurs, d'avoir une imprégnation préalable. Il ne s'agit pas d'être nécessairement né dans le pays, mais enfin véritablement d'avoir été, initié à la sensibilité d'un pays et à la manière dont les choses sont vécues par le pays. Parce que vous savez, il y a tout de même des permanences. Je crois qu'il ne faut tout de même pas exagérer dans les ruptures, dans les changements, etc., de grande permanence. Et je dois dire que d'abord, j'aime beaucoup la Normandie, j'y ai vécu pendant de nombreuses années, j'y ai des antécédents assez anciens, je pourrais dire, et alors, je crois que ça m'a aidé à voir un certain nombre de choses et à les relativiser, en quelque sorte, pas tellement à les découvrir, mais à les relativiser, à les resituer à leur vraie place. Et je vous dirais une chose, en paradoxe, si, par exemple, il s'agissait de trouver un journal provincial de la même dimension, je ne chercherai pas du tout à le travailler parce que je crois que je ne le travaillerai pas bien.
Par conséquent, nous pouvons aussi par tradition orale, si vous voulez, par la saga qui nous est parvenue, nous pouvons encore, disons, peut-être comprendre avec une intimité particulière ce texte. Mais l'abbé Tolmer était absolument de plein pied et le texte de l'abbé Tolmer est une merveille. Or, arrive maintenant, donc, le deuxième personnage, c'est Beaurepaire qui est un très grand érudit et très célèbre érudit de la deuxième moitié du XIXe siècle, auquel on doit, dans ses grandes éditions de sources qui ont marqué, qui ont été d'ailleurs la gloire de la Troisième République, on lui doit cette monumentale édition de plus de 800 pages, Grand In Quarto, qui est d'ailleurs constitue vraiment un modèle d'érudition critique. Et puis, celui qui a fait sortir Gouberville de cette demi-clandestinité, après Tolmer, qui est quand même son père, enfin, qui est quand même son inventeur, bien précisément, c'est Emmanuel Leroy Ladurie. Il a republié l'ouvrage classique de l'abbé Tolmer en donnant une introduction d'une cinquantaine de pages, avec un titre qui est d'ailleurs toute une réussite, « La verdeur du bocage ».
Emmanuel Leroy Ladurie, est-ce que Gilles de Gouberville était un peu un phénomène normand et a conservé une notoriété en Normandie alors que les ouvrages auxquels vous faites allusion datent tout de même d'un siècle?
Est-ce que vous voulez, nous autres normands, parce que je suis normand, nous sommes en décadence complète et continue depuis que nous avons conquis l'Angleterre. Nous n'arrêtons pas d'être en décadence. Alors nous nous cramponnons comme ça à quelques produits de notre civilisation normande. Il y a Flaubert quand même qui est pas trop mal. Et ça, c'est du côté de Rouen. Et puis, il y a Gouberville de l'autre côté, dans le Cotentin. Le Cotentin étant du reste le berceau vraiment de l'identité normande.
Alors, la première véritable monographie, la monographie neuve, il y a l'abbé Tolmer et Mademoiselle Foisy, n'est-ce pas? Il y a donc l'éditeur savant qu'est Beaurepaire. Il y a ce génial flaireur de grands textes qu'est le roi Ladurie. Et puis, il y a véritablement l'étude que je considère comme, dans une certaine mesure, c'est la première étude complète. Alors, Mademoiselle Foisy, qui est ingénieur au Centre national de la recherche scientifique, avait dans ses travaux normands, car Mademoiselle Foisil est l'auteur de plusieurs ouvrages classiques sur la Normandie, et notamment, surtout, enfin, le soulèvement des nu-pieds, connaissant très bien cette région, faisant partie du comité de rédaction des Annales de Normandie, Mademoiselle Foisil avait certainement, de Gouberville, avait une plus grande familiarité à l'égard tant de Tolmer que l'édition critique du XIXe siècle. L'abbé Tolmer a fait finalement l'étude de la vie des champs. Il a fait une étude agricole. Il a essayé finalement de retrouver, ayant en quelque sorte sous les yeux la vie des champs au milieu du XIXe siècle, et c'est essentiellement Gouberville, gentilhomme campagnard, Gouberville et son verger, Gouberville et ses travaux. Par conséquent, c'est une contribution extrêmement importante à l'histoire agricole, à l'histoire de l'agriculture et à l'histoire des genres de vie paysans et des genres de vie précisément de cette couche des hobereaux au XVIe siècle.
28 mars 1553. Après souper, Guillaume et Philippe dit ménage vinrent me demander conseil. Si Yvon, leur frère, qui avait été de relevé pris d'une pleurésie, se ferait saigner. Le 26 juin 1556, le curé de Tour-la-Ville, venant de Valogne, soupa avec moi et me dit qu'il avait vu brûler une femme qui avait tué deux enfants et pendre un larron.
Propre de Mademoiselle Foisy, c'est qu'elle applique les méthodes de l'étude sérielle, c'est-à-dire qu'elle a considéré ce journal, ce livre de raison comme un corpus, et elle en a tiré la totalité de l'information. Par exemple, nous savons que Gouberville et les gens qui l'entourent ont parcouru en l'espace de 10 ans près de 30 000 kilomètres. Sur toute chose, nous avons toujours l'information qui est rapportée à la totalité du corpus. Et je crois que ça, sur le plan scientifique, c'est une chose extrêmement importante. Le journal est considéré, je dirais un peu, bien que nous n'ayons pas utilisé l'ordinateur, il est marqué par l'ordinateur. Si nous avions fait passer le journal sur un ordinateur, nous aurions 30 ou 40 ou 50 millions d'informations, de bits informatifs, et par conséquent, si vous voulez, toute information est toujours rapportée à la totalité de l'information contenue. Et je crois que c'est ça qui constitue l'apport méthodologique original du livre de Mademoiselle Foisil, Le Sire de Gouberville. Et puis alors, il y a, je dois dire, une intuition, parce que Mademoiselle Foisil n'est pas uniquement une quantitativiste, je dirais qu'elle n'est pas spécialement une quantitativiste. Elle a appris le maniement de ces techniques, mais en vérité, elle a alors une intuition. Et alors que l'intuition de Tolmer portait essentiellement sur l'homme des champs, je dois dire que son intuition, à elle, porte sur l'homme et sur le solitaire. C'est pourquoi j'ai employé dans ma préface cette expression. Le roi Ladurie a vu la verdeur du bocage, Mademoiselle Choisy l'a vu la pudeur du bocage.
Le manoir de Gilles de Gouberville était situé un petit peu à l'extérieur du village. Par rapport à l'église, il y a tout de même probablement 300-400 mètres.
Environ. Et je crois que c'est intéressant parce que nous avons pratiquement ce qui existait autrefois. C'est-à-dire que lorsque l'on vient de l'église au manoir, on fait le trajet qu'a fait Gilles de Gouberville dans un sens ou dans l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que la largeur du tracé est le même qu'autrefois. Vous l'avez vu, dans cette région, les routes sont extrêmement étroites. Et là, au contraire, vous avez une route infiniment plus large. Tout simplement parce qu'elle correspond à une sorte d'avenue d'arbres que l'on peut très bien retrouver d'ailleurs quand on regarde de vieux plans, et en particulier un plan du XVIIIe siècle.
Abritons-nous dans cette grange construite en pierre, qui est une grange certainement ancienne. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a un certain nombre d'instruments aratoires qui probablement ne sont guère différents de ceux qu'on utilisait au XVIe siècle. Je vois par exemple une fourche en bois, dedans des râteaux en bois également. Comment était composé le manoir du Ménil-Auval au XVIe siècle, puisque là, ici, nous n'en avons que quelques vestiges?
Il semble qu'au XVIe siècle, vous ayez eu, n'est-ce pas, une maison d'habitation principale. C'était d'ailleurs une maison à étage, ce qui est assez remarquable, puisque Gilles de Gouberville nous explique qu'il monte l'escalier, qu'il se rend à sa chambre. Et en bas, il y avait la salle commune dont il parle peu, la cuisine dont il parle beaucoup plus fréquemment. Et autour de cette maison principale, de cette maison d'habitation assez grande vraisemblablement, il y avait carrément les éléments d'une exploitation agricole.
Quel était l'usage de cette tour qui date de l'époque?
Alors la tour avait deux emplois. D'après le document, n'est-ce pas, il y avait, c'était un pigeonnier tout au sommet. Malheureusement, cette tour qui était encore il y a quelques mois avec un magnifique toit poivrière a dû être aménagée pour la protéger. Mais si vous montez au sommet de cette tour, il y a un escalier dans l'angle là. Et si vous montez au sommet, vous voyez encore les loges à pigeons. Et ce ne sont pas des loges postérieures à l'époque de Gouberville, parce que Gouberville lui-même parle bien de ses pigeons et de ce qu'il utilisait, le fumier de pigeon, si je puis m'exprimer ainsi, pour fumer les terres. Et puis alors, en bas, et l'intérieur d'ailleurs le note, le marque assez bien, eh bien en bas, il y avait une chapelle. C'était un lieu à double usage, si vous voulez, une chapelle qui était utilisée, pas tout le temps, car Gilles de Gouberville va aux offices de la paroisse, il était paroissien très assidu, mais...
C'est-à-dire à l'église.
N'est-ce pas? Oui, parfaitement. À l'église, mais il y avait des offices qui avait lieu à la chapelle, en particulier quand il fait ses Pâques avec ses serviteurs tous les ans, très régulièrement, selon ce qui est exigé par l'Église, n'est-ce pas, selon le Concile de Latran, si je ne me trompe pas, eh bien, Gilles de Gouberville fait ses Pâques dans la chapelle. Et il évoque très souvent la chapelle. Mais en même temps, c'est la familiarité des lieux. Quand la chapelle n'est pas lieu de culte, elle peut être très bien lieu d'abri. Et j'ai surpris de temps en temps Gilles de Gouberville faire travailler ses serviteurs carrément dans la chapelle quand il fait mauvais.
Emmanuel Leroy Ladurie.
Gouberville exprime effectivement le riche paysan normand, le gros paysan normand, le marchand de vaches, tel que je l'ai connu un peu dans mon enfance, personnage peut-être assez sanguin, très lié aux populations, au milieu de ses bovins, un peu paillard, mais de façon discrète. Et au fond, à travers Gouberville, moi, il m'a tout de même semblé retrouver des gens que j'avais connus, y compris même des membres de ma propre famille, des oncles, des ruraux que j'avais bien connus. Et quand vous songez que Gouberville est plus ou moins le cousin de Tocqueville, c'est quand même drôle, parce que ce sont vraiment deux types humains différents.
Justement, dans cette société rurale du XVIe siècle, comment situer Gilles de Gouberville ?
C'est une espèce de petit chef tribal, je crois, au fond. On pourrait dire cela comme ça. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est extrêmement lié à la population. C'est un leader, il y trouve des compagnes, des femmes, sans trop de difficultés, à qui il fait des enfants. C'est relativement bien accepté. Il y a aussi un certain nombre de prêtres comme ça à la même époque, ce qui n'empêche pas qu'ils ont, bien au contraire, qu'ils ont de l'autorité sur les populations. Ils manipulent un peu tout le monde, l'assemblée paroissiale, le vicaire. Il engueule, il bat, il tape, pas trop méchamment. C'est une sorte d'arbitre aussi. C'est le grand propriétaire qui fait un peu suer le burnous, parce que quand même, il y a encore des corvées, c'est assez incroyable. Les gens viennent faire la boisson gratuitement chez lui. C'est vrai qu'il leur fait un repas excellent, puis il y a de la rondance, enfin tout ça est très amusant, mais n'empêche qu'il ne les paie pas. Si vous voulez,
c'est un seigneur ?
C'était un seigneur, sans aucun doute, mais pas un seigneur en papier comme celui que nous trouvons trop souvent dans nos livres d'histoire. C'est un exploiteur agricole et en même temps une sorte de leader tribal. Oui.
Autour de cette tour, alors, dont on est sûr de la présence à l'époque de Gilles de Gouberville, il y a aujourd'hui un certain nombre de bâtiments, d'ailleurs assez vastes, des maisons d'habitation. Il y en a notamment deux. Il y a des granges, il y a des bâtiments de fermes. J'imagine que le manoir était tout de même, avec ses dépendances, assez étendu, étant donné le nombre de personnes qui vivent dans cette maison.
Ah oui, c'est assez étendu.
Et qui travaillent.
Ça fait tout de même à demeure, n'est-ce pas ? Il y a tout de même une douzaine de personnes qui vivent dans ce manoir, ce qui suppose même des bâtiments assez étendus. Puis alors, ça reste tout de même un manoir exploitation. Ce qui peut d'ailleurs surprendre ceux qui connaissent la noblesse d'une manière plus prestigieuse. En effet, pour beaucoup, la noblesse, c'est le chevalier avec une armure ou c'est le noble de cour. Et vous avez eu, au XVIe siècle, et les dernières études qui ont été faites ces 10 ans, si je puis dire, ont fait valoir qu'il y avait un tissu nobiliaire extrêmement nombreux et un tissu nobiliaire à la fois très conscient de sa valeur de noble et en même temps très proche de la terre et qui est un monde d'exploitants agricoles, à la fois au-dessus de la terre et en même temps très proche d'elle-même.
Comment était l'homme tel que l'ont vu ses contemporains ? Pas un mot dans le texte pour le décrire et se décrire. Était-il le Normand grand, sec, aux yeux bleus, couleur de mer, proche de la race nordique dont le type est encore de nos jours gardé de manière saisissante ? Ou avait-il le teint haut en couleur, les membres forts et cette réplétion qu'il a attribuée à l'un de ceux qui faisaient avec lui la diète à Rouen en 1550. Nul portrait, pour nous le dire. Point de tableau comme il en fut fait de ses contemporains illustres. Point non plus de portrait d'ancêtres conservés jusqu'à nos jours, comme il en existe en de nombreuses demeures normandes. Couleurs médiocres et affadies, mais ayant l'art modeste de la vérité du visage et du costume. Sur Gouberville, nous n'avons rien. Les traits du sire sont pour nous définitivement perdus.
Manifestement, c'est un homme d'office.
Pierre Chaunu.
Il est lieutenant des eaux et forêts. Il appartient très exactement à une catégorie sociale qui est finalement de ces, je pense que sa famille, ce sont des coqs de village qui ont dû croître par l'office seigneurial, qui ont acquis des terres, qui ont acquis un office et qui ont renforcé leur pouvoir sur les terres. Par conséquent, l'opposition que certains historiens d'ailleurs ont voulu dramatique entre Gouberville, homme de la ville, de Valognes, officier, et Gouberville, homme des champs, pour quiconque connaît la totalité, dans sa totalité, la société du XVe, XVIe siècle, c'est une fausse opposition. On est à la fois l'un et l'autre. Tout au bas de la noblesse, je dois dire qu'il y a à la zone, vous savez, au XVIe siècle, il faut bien dire d'ailleurs que l'opposition entre noble et non-noble est beaucoup moins dramatique qu'en 1780. C'est à la fin de l'Ancien Régime que la société s'est ossifiée et qu'à ce moment-là, la noblesse s'est fermée. Mais au XVIe siècle, on passe, je dois dire, insensiblement d'un état dans l'autre. Il appartient précisément à ces deux zones de gens qui sont les hobereaux, les officiers, que naturellement les nobles de cour devaient considérer les gens comme Gouberville en dehors de leur caste, et que par contre, pour la petite noblesse des campagnes, évidemment, Gouberville, c'était un personnage. Alors, je dois dire que, à mon sens, ces discussions me paraissent dramatiser des nuances et finalement traduire une incompréhension profonde de la société de cette époque.
Et pourtant, sa noblesse n'est peut-être pas si évidente que cela, puisqu'il a à en faire preuve.
Oui, mais tout le monde a à faire preuve de sa noblesse. Gouberville n'est pas l'homme de guerre, n'est pas un homme d'épée. Par contre, il est incontestable qu'il vit noblement. En vérité, si nous étions en Espagne, il serait incontestablement un Hidalgo. Et de toute manière, il pourrait prouver qu'il est un Hidalgo, puisque de toute façon, il vit noblement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il vit en exploitant ses terres, et il ne fait pas les travaux mécaniques, il fait un travail de direction constant dans sa terre. Par contre, il fait les travaux nobles des champs. Mais ça,
c'est-à-dire pas de labour, mais par contre les greffes, et il s'occupe de ses arbres.
Ça, s'occuper de ses arbres, ça, ce n'est pas dérogé. C'est le bon ménager des champs qui fait cette partie. Donc, il assure la direction de cette terre, son exploitation. Et puis, vous le voyez aussi, je le dis, rendre une sorte de mini-justice. On le voit corriger trois fois, enfin, d'une manière un peu sévère, mais enfin, disons, paternelle, un peu rude, trois de ses serviteurs qui ont, enfin, mis, je dirais, en péril, enfin, la paix de cette petite société.
Correction physique pour les hommes, mais pas pour les servantes, pas pour les femmes.
Non, pas pour les femmes. Non, c'était pas un sauvage, enfin, c'est... évidemment, bien sûr, correction physique, enfin, il leur donne quelques coups de ceinture ou quelques coups de pied dans le derrière, enfin. C'est, dans le fond, le rôle du hobereau. Personnellement, je n'hésite pas, si vous voulez, à placer Gouberville. Eh bien, je dirais, de même que nous avons tout à fait dit tout à l'heure qu'il était à l'échelon zéro de l'écriture, je dirais qu'il est à l'échelon zéro de la noblesse.
Les chausses, le pourpoint, le manteau, la robe sont les éléments de son costume. Chausses de velours, pourpoint de satin, chausses de velours doublées de drap noir, manteau de drap noir, passement de soie et boutons. Manteau de futaine doublé de taffetas bordé d'un fil de soie. Manteau bordé de velours. Robe de droguet à passement noir et blanc. Robe de taffetas à gros grains. Et enfin, c'est le confort et la chaleur du vêtement doublé de chaude fourrure. Le vêtement fourré, c'est la robe. Peine, lombarde et martre en assurent le bien-être. Les bottes de cuir marocain faites à partir de peau de chèvre. Chapeau de feutre, bonnet de velours, achèvent la tenue de notre gentilhomme.
Entrez.
Monsieur et Madame Picot, nous pénétrons chez vous.
Bien sûr.
Ce que nous remarquions avec Madeleine Foisil, c'est que vous portiez le même nom que Gilles de Gouberville.
Ah, oui. Nous avons un petit-fils qui s'appelle Gilles Picot.
Habitant la maison, le manoir du Ménil-Auval, est-ce que vous avez vu venir un certain nombre de gens qui veulent voir la maison qu'habitait Gilles de Gouberville?
Ah, le manoir là, oui. C'est incroyable, mais on ne peut pas vous dire... Combien de rallyes qui sont venus là. C'est incroyable. Le même dimanche que nous partions à la fête Saint-Michel, à la messe à Digoville, chez nos enfants, eh bien, en un quart d'heure, il y en a deux qui sont venus nous demander des explications, alors que je leur ai demandé de montrer le cadran solaire, mais je leur ai dit, je vous défends d'aller de l'autre côté. Hein. Ce n'est pas à nous.
Et la tour, qui est la partie la plus ancienne, est-ce que vous vous en servez encore?
Dans la tour, là, on montait du foin.
Pardon?
Du foin qu'on y était.
Que nous mettions dans le temps.
Vous mettiez le foin, là?
Oui.
Et puis alors, dans l'embas, c'était la nourriture des cochons.
C'était des pommes de terre, tout ça, pommes de terre, le grain, comprenez-vous. Pour les parents picots, alors, comprenez-vous.
Oui, mais ici, maintenant, vous êtes à la retraite, mais vous aviez une exploitation agricole ici, dans cette ferme.
À nous autres ? Ah, bien, oui, avec nos deux enfants, forcément.
Qu'est-ce que vous faisiez, surtout de l'élevage ou de la culture ?
Eh bien, asseyez-vous, vous allez au étage, je viens d'être assis, comme de parler de debout. Entrayez 12 vaches, voyez-vous.
Entrayez les vaches. On faisait des vaches de fourrou.
Et puis, on graissait des veaux. Aussi, toujours. Oh oui, on avait toujours. Et puis alors, mon mari allait les vendre au marché le lundi. Il avait souvent des primes, hein, parce que ses veaux étaient bons.
Ah oui.
Ah oui. Puis alors, on avait deux chevaux. Pour faire le labour, il fallait bien.
Ah, vous aviez toujours la traction à cheval.
Toujours, la charrue, l'herse, et puis...
Moi, je n'ai jamais eu de tracteur.
D'une année, on avait 22 cochons, hein, petits cochons, qui allaient prendre 2 mois. Je me disais comme ça, mais tous mes cochons, ils ne savent plus marcher. Eh bien, ils avaient la fièvre. Tout le temps que nous avons fait valoir, on a eu 3 fois la fièvre. Les bestiaux et puis les cochons. Vous voyez ce que c'est, hein?
Ouais. Et les cochons, comment est-ce que vous les nourrissiez?
Ah ben, ils venaient aller ramasser des orties très loin. 1 kilomètre, je revenais avec mon sac d'orties sur l'épaule. Et puis je rachais avec mon hachoir très fin. Et puis on mélangeait ça avec de la farine d'orge et de la farine qu'on achetait chez le grainetier, comprenez-vous. Et on leur faisait une pâtée dure et on leur donnait ça.
Vous aviez donc 2 chevaux, oui, pour tirer la charrue.
Oui.
Vous aviez donc des champs. Et quelle était la culture que vous faisiez?
Eh bien, on faisait du blé, on faisait de l'orge, on faisait de l'avoine et puis des betteraves, comprenez-vous.
Donc de la culture pour nourrir les bestiaux.
Ah, pour nourrir. Ah oui. Puis les volailles, le blé pour les volailles, n'est-ce pas? Oui.
Comment est constitué le village du Ménil-Auval aujourd'hui? Ce sont uniquement des ruraux, des fermes?
Je comptais ça, il y en a encore, des cultivateurs, voyez-vous. Je comptais ça dans ma tête hein, le soir quand je dors. Il y en a encore bien 23 ou 24 ménages cultivateurs, voyez-vous.
Foisil, est-ce que vous pourriez nous faire vivre un peu les principales figures que l'on voit à travers le journal et qui habitent le manoir du Ménil-Auval?
D'abord, Gilles de Gouberville n'a pas été marié. Il avait tout de même une vie familiale parce qu'il a accueilli sous son toit, et je crois que c'était très fréquent au XVIe siècle, il a accueilli ses demi-frères, son demi-frère bâtard, il en avait plusieurs, mais celui dont il parle plus, c'est son demi-frère bâtard Simonet et sa demi-sœur bâtard de son père, c'était des bâtards de son père, Guillemette. Alors, il aimait beaucoup Simonet, il avait même un faible pour lui, puis finalement, ça s'est pas très bien terminé. Il l'a beaucoup gâté, et Simonet est devenu de plus en plus exigeant, amer, difficile, et à la fin de sa vie, on ne voit plus Simonet à l'extrême fin de sa vie. Bon, alors ça, c'est un personnage. Simonet chasse beaucoup, enfin, c'est le chasseur de la famille, etc. Même Simonet fait des frasques, enfin, court les filles, et enfin, Gouberville et Simonet courent les filles ensemble, tout ça dit... ce sont les mêmes, oui, tout ça dit, avec, enfin, dans un langage très, très, très elliptique, puisqu'il emploie les caractères grecs pour raconter cela. Et puis alors, il y a Guillemette, et alors Guillemette, c'est sa demi-sœur, et la demi-sœur Guillemette apparaît très, très peu. Et elle se marie avec quelqu'un qui était l'homme de confiance de Gouberville et qui était Canepi. Canepi, c'est un serviteur, enfin tout à fait, enfin au niveau presque. Il est à la fois un secrétaire, un homme de confiance, etc. Et il fait pratiquement toutes les affaires de Gilles de Gouberville. C'est lui qui s'en charge quand il faut aller à Valognes, quand il faut aller à Cherbourg, quand il faut démêler des choses difficiles. C'est lui qui le fait. Et il épouse Guillemette. Alors, Guillemette et Canepi vont habiter, voyons, c'est du côté des Pieux. Les Pieux, oui, c'est dans ce coin-là, à Tréauville, je crois, et du côté des Pieux, et Guilmette meurt un an après, en ayant un enfant dont on ne sait pas si c'était un petit garçon ou une petite fille, et alors elle meurt, et mon Dieu, il y a peu de choses là-dessus. Alors il y a les serviteurs et les servantes, et il y a surtout les servantes. Alors, il y a Jeanne la Beauté, et ça, c'est très intéressant, Jeanne la Beauté, parce que, alors, le roi Ladurie voulait qu'elle ait été la maîtresse de Gouberville, moi, j'ai aucune raison de le penser. Non, je crois que c'est une servante qui est là, qui est fidèle, qui n'a pas bon caractère. Et là, on voit très très bien apparaître, en effet, cette extraordinaire familiarité du gentilhomme avec son entourage. Quand elle a envie de lui dire quelque chose, alors tout d'un coup, elle n'est pas contente, et elle part. Elle part sans dire adieu, s'en va. Quelque chose qui ne lui a pas plu. Eh bien, elle revient, et bien Gilles de Gouberville la reprend à son service. Il dit pas, enfin, comment vous êtes parti, restez où vous êtes. Il la reprend. Et puis alors, elle fait venir son frère pour une raison ou pour une autre. Eh bien, le frère couche sous le toit du Ménil-Oval. Enfin, on ne lui dit pas non, on l'accueille également. Et puis alors, il y a eu, parmi les servantes, il y en a eu plusieurs, il y a eu Guyonne. Et alors, Guyonne n'est pas commode non plus. Alors, Guyonne est voleuse. Et alors, en particulier, elle avait fait une chose absolument qui m'a tout de même amusée. Elle avait réussi à dérober un drap. Elle avait pris un drap et elle l'avait caché dans le fourni. Alors, on a redécouvert le drap dans le fourni. Alors, on a bien grandi Guyonne. Et puis, elle est partie. Elle ne se plaisait pas. Elle est partie parce qu'on voit très bien qu'elle manifeste leur mécontentement, un peu comme les servantes de Molière. Il y a un petit peu de ça. Non, je crois que l'image que révèle le journal, c'est quand même une image, si vous voulez, d'une société qui a naturellement ses tensions. Il ne faut pas l'exclure, mais d'une société qui vit quand même en bonne entente et en bon voisinage.
Il faut bien noter, nous sommes avant la réforme catholique.
Pierre Chaunu.
Naturellement, la réforme catholique ne va pas modifier totalement et fondamentalement les mœurs et les comportements, parce que ça, l'attirance de l'être humain pour l'autre sexe, enfin, fait partie de notre nature biologique et avant même à partir de notre nature sociale. Mais il est incontestable que, devant ces problèmes, encore que. Vous faire remarquer que, justement, entre la verdeur et la pudeur du bocage, je choisis la pudeur du bocage. Car je vous fais remarquer que Gouberville parle de ces choses, enfin, parle de ces accros, avec beaucoup de pudeur. Mais il est incontestable.
Oui, en même temps, il y a des scènes de débauche en compagnie de Simonet.
Mais écoutez, il le note d'une phrase, et en caractère grec. Oui, il est allé foutre, etc., selon l'expression F, puisque le F est mis pour... Oui, l'expression est très verte, mais enfin, qu'est-ce qu'elle dit ? Il dit bien ce qu'il a fait. Il est mort à 57 ans et demi, et mon Dieu, bien qu'il n'ait pas été marié, ce malheureux Gouberville n'a pas vécu comme un moine idéal du désert de la Thébaïde.
Il exerce aussi une sorte de droit de cuissage sur les paysannes de son village.
Écoutez, modérément. Autant qu'on puisse le savoir, modérément et vraisemblablement avec... Non, écoutez, ce n'est pas un droit de tissage généralisé. Disons que, bon, il a eu quelques amours ancillaires. C'est quand même pas... Vous avez noté qu'il ne frappe pas les femmes. De toute façon, Gouberville n'est pas un faune déchaîné. Les quelques scènes dans les fossés, c'est pas lui qui est directement en cause. Bon, écoutez, il a le comportement d'un homme de son temps et d'un homme, permettrez l'expression, je le mettrai avec des gros guillemets, enfin c'est un homme normal, enfin c'est quelqu'un qui a une nature qui n'est pas... Peut-être pas volcanique, mais enfin bon, c'est un mâle, enfin c'est un homme. D'autre part, il ne se contrôle pas toujours, il reconnaît qu'il a eu des accros, enfin il laisse passer ses accros. Mais nous sommes en 1550, 1560. C'est vraisemblablement le fait majeur, le fait presque troublant, le fait presque hallucinant de la réforme catholique. C'est finalement le fantastique effort qui a été fait entre, en gros, 1580, 90 et 1670, 1680, pour contrôler les pulsions sexuelles. Et vous avez vu, alors là, chuter d'une manière très considérable les naissances illégitimes. Mais là, nous sommes avant. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est considéré comme une chose bien, remarquable, on n'en est pas très fier, mais enfin, ça existe et on n'en fait pas un drame. Par conséquent, voilà la situation où est Gouberville.
le 22 juin 1553. Avant que je me levasse, Gilles Roger me vint dire que Tao était tombé d'un arbre à la Bousseille et qu'il était blessé. Incontinent, je me lève et m'en allai chez le dit Tao que je trouve couché devant le feu. Je lui fis et assois des emplâtres de tourmentine que je lui assis aux endroits foulés et meurtris.
Foisil, il y a également une activité qu'exerce Gilles de Gouberville, c'est une activité de rebouteux, j'irais presque de médecin.
Ah oui, tout à fait, ça c'est un aspect d'ailleurs très très intéressant. Je crois au fond que Gouberville avait une vocation presque de médecin. D'abord, le fait d'être aussi minutieux, aussi régulier, aussi ponctuel, c'est quelque chose bon qui est nécessaire au médecin. Et puis alors, bon, c'est beaucoup plus intéressant ce qui va suivre, c'est-à-dire que il vit dans ce monde campagnard où pendant des années, il a été très difficile de se faire soigner par un médecin. La distance médicale, c'est une distance que l'on a tout à fait oubliée, mais qui est considérable. Et en somme, il faut trouver celui qui pourra vous assister, vous aider, vous adoucir, se substituer au médecin. Et Gilles de Gouberville l'a fait. Et on n'a pas du tout l'impression que ce soit un effort, n'est-ce pas, chez lui. Non, ça fait partie presque d'une seconde nature. Et c'est une belle chose, finalement. D'ailleurs, ça avait beaucoup frappé l'abbé Tolmer. L'abbé Tolmer avait été très sensible à cet aspect de sa personnalité. Et je crois qu'il faut beaucoup insister là-dessus. Parce que si on veut parler de Gilles de Gouberville social, bon, puisque c'est un thème en quelque sorte à la mode, eh bien, je crois que si on parle de Gilles de Gouberville social, il faudrait parler tout de suite de cette extraordinaire aptitude à l'assistance dans la maladie et dans la douleur, et capable d'ailleurs, en effet, comme vous le dites, de faire des pansements, de rebouter, de donner des décoctions, de proposer une médecine ou une autre. Et finalement, c'est tout de même un rôle, au fond, un rôle du gentilhomme campagnard, en plus, parce qu'il a aussi un savoir qui est plus grand. Et alors, ce savoir, il l'exerce de cette manière-là. Mais certainement, c'est un très beau témoignage et qui n'a pas voulu l'être.
Arrivé à Cherbourg, je m'en allais voir Jacques le Barbanchon de Tour-la-Ville, étant chez un barbier nommé Maître Guillaume pour un cancer qu'il a au visage passé son 9 ans. Je remontre au dit barbier la folie de son entreprise, et comme telles cures sont impossibles selon qu'en ont écrit tous les médecins et chirurgiens. 26 avril 1555. J'envoie Gilles, berger, couché à Montebourg, pour amener demain maître Richard Legros, barbier, pour voir l'anthrax ou en posthume que Harel a à la fesse. Je fus chez Auvray quérir de l'oignon de lys pour faire un maturatif au dit Harel. Le 22, maître Richard Legros, barbier, et moi allâmes pour percer l'imposthume Harel, puis dînâmes.
« En quoi ce journal de 13 ans qui se situe entre 1549 et 1562 est révélateur du XVIe siècle français ?
Eh bien, il nous donne une image assez différente, ça je crois, moi aussi bien que Madeleine Foisil, nous l'avons senti. C'est pas du tout rabelaisien, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui a une vie qui n'est pas entièrement conforme aux prescriptions de l'Église. D'abord, le malheureux étant célibataire, on comprend qu'il a essayé d'avoir quelques consolations quand même. Mais il s'en cache. C'est indiqué en grec dans son journal. Manifestement, il en éprouve un certain sentiment de péché, puisqu'à un moment, on le voit faire un pèlerinage déguisé en marin, pour se faire pardonner je ne sais quel péché qu'il a commis avec une fille de son village ou des alentours. Donc c'est plutôt sa vie débridée, ça, qui n'est pas débridée du reste, mais enfin, ses manquements à la morale de l'Église du point de vue de ses relations féminines, ça n'est pas du tout présenté de façon rabelaisienne sous forme d'un bonheur épanoui, c'est plutôt déjà assez retiré, assez caché. Et là aussi on retrouve peut-être un certain tempérament normand de gens qui n'aiment pas trop étaler leurs richesses et leurs problèmes, qui sont relativement renfermés et méfiants. En ce sens, c'est un XVIe siècle différent, certainement, de celui de Rabelais, celui de la Renaissance. Mais au fond, est-ce que la Renaissance est vraiment typique de la masse? Est-ce que ça n'est pas typique de l'élite, un peu comme les peintres de Montparnasse dans les années 1920, si vous voulez, qui n'étaient pas du tout représentatifs du petit bourgeois français? Bien au contraire. Donc, de ce point de vue, il est typique, mais pas au sens où nous pourrions le croire. Par ailleurs, sa culture, qui n'est pas du tout nulle, les romans de chevalerie, etc., le situe dans une sorte de Moyen-Âge finissant, réanimé par l'imprimerie, si vous voulez.
Culture de Gilles de Gouberville.
Ah, c'est une culture, enfin, qu'on peut saisir d'ailleurs de plusieurs manières. D'ailleurs, je crois que, pour commencer, quand on écrit un texte, dans le bon français qu'il possède bien, c'est déjà un indicateur de culture. Et alors, il a un bon niveau de lecture, car il lit Machiavel l'année même de l'apparition du prince Machiavel, en français. Il lit Rabelais l'année même où paraît Rabelais. Il lit Nostradamus. Et puis alors, il est en même temps une culture enfin populaire, puisque il lit à, c'est une image d'ailleurs qui a toujours été reprise, puisqu'il lit à la veillée à ses serviteurs et à ses domestiques le fameux Amadis de Gaulle, qui d'ailleurs est un texte splendide, un texte de chevalerie avec tout ce que cela peut avoir d'éclat, de brillant, etc. Il y a une seule notation, mais le fait que ça ait eu lieu une fois, ça veut dire que ça s'est répété. C'est, je crois, bon, c'est pas exceptionnel, il y avait des gens, surtout à cette belle époque de la Renaissance, il y avait des gens qui étaient beaucoup plus cultivés que lui, mais dans ce fond du Cotentin, dans cet isolement où est ce manoir, je crois que c'est déjà pas mal. Hein.
Il se mettait tout le temps, il allait à la messe.
Oui, Gilles de Gouberville.
Gilles de Gouberville.
Ah oui.
Monsieur Madame Picot, vous êtes en train de parler entre vous de l'endroit où a pu être enterré Gilles de Gouberville, c'est-à-dire à l'intérieur de l'église du Ménil-Oval.
Oui.
D'abord, est-ce que cette église du Ménil-Oval est toujours desservie par un curé?
Ah, toujours. Oui, maintenant.
Il n'est pas résident.
Il n'est pas résident, il est Auteuil. Comprenez-vous, mais il a le Ménil-Oval, il a Gonneville. Il a Dégauville et puis l'Auteuil. Il a au moins, il a presque 3000 habitants à faire valoir, comme je dis. À s'occuper.
Vous avez une messe tous les dimanches?
Tous les samedis soirs et tous les mercredis matins. Ce que celui qui était avant, qui est maintenant abri, ne faisait pas. Il ne nous disait qu'une messe, oh, 5-6 fois par an. C'est tout. Et celui-ci, dimanche prochain, ben, on a une messe à 9h30. Parce qu'il y a 5 dimanches dans le mois.
Et il y a du monde à la messe?
Oh! Ben oui, il en a ramené, mais ça s'y prend, je vous l'assure. Il y a 60-70 personnes à la messe le samedi soir.
Est-ce qu'il y a des protestants dans la région?
Non.
Pas par ici?
Ah non, tout le monde est catholique, croyant catholique.
Le 25 novembre 1557, jour Sainte-Catherine, entre 9 et 10 heures du matin, je m'en allais à l'église. Il n'y avait encore que 3 ou 4 personnes et était encore matine à commencer. J'en blâmais messire Jean Fréret qui, par dépit et colère, commença la messe.
Sur une petite proéminence dans ce village assez plat a été construite l'église du Ménil-Oval. C'est une petite église campagnarde, extrêmement modeste, mais une assez belle architecture. Dans cette église, dont l'intérieur est peint en blanc, il y a tout de même deux statues anciennes en bois polychrome qui sont au fond du chœur, une statue de Saint-Gilles et une statue de Saint-Nicolas.
Alors, je ne sais pas du tout d'où elle provient, je n'ai pas recherché particulièrement, mais étant donné que Gouberville lui-même portait le nom de Gilles, on peut tout de même faire un rapprochement, même si on n'a pas les moyens très précis de le faire de manière plus intéressante, plus
circonstanciée. Vous voulez dire que c'est peut-être lui qui a offert
cette
statue à la paroisse?
C'est fort possible, d'autant que là, c'est intéressant en effet ce que vous suggérez là, car il était très attaché à sa propre fête. Elle avait lieu au mois de septembre, la Saint-Gilles est au mois de septembre, et ce jour-là, il y avait toujours une messe à laquelle étaient conviés un certain nombre de personnes. Et après la messe, il y avait une réunion autour d'un repas où il distribuait d'ailleurs des cadeaux aux femmes qui se trouvaient présentes. Et c'est une fête à laquelle il a été certainement très attaché.
Monsieur et Madame Picot nous disait que cette paroisse est toujours desservie par un prêtre, qu'il y a là une messe hebdomadaire. Gilles de Gouberville assistait à l'office assez régulièrement. Il mentionne très fréquemment le fait qu'il assiste à la messe, pas toujours, donc on ne sait pas s'il venait vraiment là chaque dimanche assister à l'office ou assister à Vêpres. Quels étaient exactement ses rapports avec la foi?
Gouberville est un pratiquant très très assidu, et dans les années du journal qui nous sont conservées, on ne voit pas de faille. Il lui arrive en effet de ne pas aller à la messe parce qu'il est malade, c'est peut-être un petit peu un prétexte, mais on peut dire, en gros, il a été certainement assidu. Il se confesse d'ailleurs tous les ans, il fait ses Pâques tous les ans.
Et il n'est pas toujours ici, il va également à Valogne parfois.
Oui, ça lui est arrivé d'aller à Valogne, évidemment. Et pourtant, n'est-ce pas, selon les canons, mais c'est surtout les canons du Concile de Trente qui établiront cette obligation de se confesser et de communier dans la paroisse, à la fois parce que on appartient à une paroisse, et ensuite comme une sorte de témoignage, n'est-ce pas, de sa pratique religieuse, et comme une sorte d'exemple de sa pratique religieuse. Mais c'est un homme exact, je peux le dire, dans ses devoirs religieux, et je trouve que c'est très intéressant de le saisir, et c'est peut-être finalement plus profond que nous ne pourrions l'imaginer, n'est-ce pas, c'est peut-être pas uniquement superficiel, mais là on ne peut pas aller plus loin.
À travers son journal, on a un peu l'impression aussi que non seulement il est le maître du manoir qui régit la vie de sa maison, de ses 12 ou 14 serviteurs, de sa famille qui habite le manoir, peut-être des paysans également qui travaillent sur son exploitation, mais que aussi dans cette église, c'est un petit peu lui qui fait la pluie et le beau temps. Alors quels sont ses rapports avec le clergé et de quelle autorité dispose-t-il également en ce qui concerne les cérémonies ?
Nous sommes là dans cette église et je trouve qu'elle évoque très très bien ce qui s'y passe, n'est-ce pas ? Gilles de Gouberville assiste à la messe, les paysans autour de lui assistent à la messe et finalement, au fond, il y a une sorte de familiarité qui existe. Le curé attrape ceux qui sont là parce que ils n'ont pas été assidus à telle ou telle chose. Il y a un des paysans ou quelqu'un qui entre dans l'église pour demander quelque chose à Gilles de Gouberville qui vient jusqu'à son banc.
Le samedi 13 avril 1555, vigile de Pâques, sur les 2 heures, je m'en allais à Cherbourg. Et après force acquisition de viande et de chaussures et d'étoffes, je renvoie mes chevaux et ce que dessus, et demeurai à souper et coucher à Cherbourg. Je soupe au presbytère avec le curé du dit lieu, le curé de Préteau. Après souper, je m'en allais à confesse à Messire Jean Palfroy, vicaire du dit lieu de Cherbourg, lui donne 3 sequins. Il était quasi nuit quand nous eûmes achevé. Le dimanche, jour de Pâques, 14e de ce mois, je m'en allais ouïr matine et plusieurs messes qui se dirent cependant. Puis, allais faire mes Pâques.
Quand on sort de cette église par la porte du transept droit, on tombe directement dans le cimetière. Un cimetière qui est tout autour de l'église, comme c'est souvent le cas dans les églises de campagne. Mais dans ce cimetière, on a presque l'impression qu'il joue le rôle au XVIe siècle d'une sorte de place publique, de place de marché.
Ah, tout à fait, oui. Là, on perçoit ça admirablement dans ce texte parce que le cimetière, je n'ai quand même pas compté le nombre de fois, mais apparaît très souvent. Et le cimetière, c'est un lieu de sociabilité. C'est un lieu de sociabilité avant d'entrer dans l'église. On arrive un petit peu de bonheur pour rencontrer les uns et les autres. Et lorsqu'on sort, on ne repart pas immédiatement. Et on continue, n'est-ce pas, à parler d'une chose ou d'une autre. Même, il évoque à certains moments que l'on a vendu des pommes, l'on a vendu telle ou telle chose, ou bien alors on s'est disputé. Par exemple, il y a la fameuse histoire de Rose d'Ancel qui accuse La Joie. La Joie, c'est un des serviteurs de Gouberville parce que, dit-elle, La Joie l'a engrossé. Alors elle est furieuse et elle le crie très fort dans le cimetière. Bon, nous y sommes, n'est-ce pas ? Les lieux, finalement, je crois, et à part la physionomie des tombes, mais les lieux n'ont pour ainsi dire pas changé, et ça c'est assez extraordinaire, c'est assez beau.
Le 1er novembre 1557, les serviteurs de mon cousin de Bretteville me dire que mon cousin de Raffoville avait été outragé ce jour-d'hui, en l'église de Saint-Pierre, comme on lisait l'Évangile, par Cideville, Saint-Martin, fils du verdier de Valognes, Navarre et plusieurs autres de leur complicité. Chantepie me dit qu'il était venu de Valognes avec un de ceux qui étaient à outrager Raffoville, lequel menait un barbier pour panser le dit sieur de Raffoville, qui était fort blessé d'un coup de pistolet au travers de l'épaule gauche, et conta au dit Champy comme la chose était advenue en l'église de Saint-Pierre lorsqu'il lisait l'Évangile.
Ainsi vivait Gilles de Gouberville, gentilhomme campagnard du Mesnil-Aux-Val entre 1521 et 1578 sous le règne d'Henri II. Célibataire, entouré de ses frères et sœurs bâtards et de ses serviteurs, tenant quotidiennement un compte précis de ses journées. Dans une deuxième évocation de cet inconnu de l'histoire, nous découvrirons cette exploitation agricole du Mesnil-Aux-Val et de Gouberville en analysant le type de production et le fonctionnement économique de cette société rurale de la Renaissance. Nous verrons aussi, avec notre médiateur, que la foi de ce gentilhomme fut mise à l'épreuve par la première guerre de religion qui arrive aux portes de son manoir en 1562. Inconnu de l'histoire,
Gilles de Gouberville,
par Jean Montalbetti. Médiateur Pierre Chaunu, expert Emmanuel Leroy Ladurie et Madeleine Foisil, avec la participation de Monsieur et Madame Picot, fermier au Ménil-Auval. Les lectures extraites du Sire de Gouberville par Madeleine Foisil et du journal Mises et recettes de Gilles de Gouberville ont été faites par Yves Marie. Prise de son en Normandie, Philippe Noir de FR3. Recherche de documentation Catherine Montalbetti et la réalisation est d'Albert Morin.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 janvier 1982. À suivre et d'ici là, à télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».